16h08, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour, le château fort de l'extrême centre. Moins 4 degrés à Québec, encore quelques flocons. Et on entre dans une section un peu plus douce de 2026 ce soir et cette nuit, c'est moins 6 le minimum. Demain, dégagement. Et malgré tout, on reste dans le doux avec un maximum de moins 3 degrés. Vendredi 13, du soleil, maximum de moins 6. Samedi 14 février, de la neige avec un maximum de moins 6.
Bon moment pour pratiquer l'oreiller.
Bon moment pour pratiquer l'oreiller, effectivement.
Faites juste attention à votre mâchoire.
Du soleil pour dimanche, avec un maximum de moins 3 degrés pour nous rejoindre par texto, le 418-971-1021. Par téléphone, le 418-780-1021. On est partout sur vos réseaux sociaux et ceux des autres. On a une chaîne YouTube facilement trouvable et un Twitch pour suivre tout ce qui se passe en studio, twitch.tv. La chaîne BLVD, barre en dessous, FM, beaucoup de choses à jaser dans la prochaine heure, beaucoup de nouvelles fraîches, beaucoup de gros sujets aussi, et je ne sais pas si on va réussir à faire le tour de toute l'actualité en une seule conversation, parce que j'ai des choses à dire, et j'espère que vous autres aussi, 418-971-1021. Audrey a des choses à vous dire sur la circulation.
Capitale, direction Est, c'est très bien installé, disons, entre Henri IV et Laurentienne en ce moment. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne. Laurentienne Nord, d'ailleurs, à partir de la capitale, en montant jusqu'à à peu près Jean Talon, là, très au ralenti, il y a un incident, c'est pas un incident, c'est un camion lourd qui est en panne, qui crée ce ralentissement-là. L'entrée des ponts, direction Sud, à partir de Duplessis ou d'Henri IV, est difficile, je vous dirais, jusqu'à l'entrée des ponts. Robert Bourassa, direction nord, ça se passe surtout entre Charest et Wilfrid Hamel. Plus haut dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravoure dans les deux directions, toujours au ralenti. 20 ouest sur la rive sud, c'est entre Chemin des Îles et Taniata, surtout, si vous voyez autre chose. 88-971-1021, texto.
Véro, l'essentiel de l'actualité de ce 11 février.
La GRC qui a fait un point de presse plus tôt cet après-midi pour donner plus de détails sur la tuerie qui a eu lieu hier après-midi en Colombie-Britannique, pardon, dans le secteur de la communauté de Tumbler Ridge. On a d'abord revu un peu à la baisse le nombre de décès. C'est quand même 9 décès. C'est assez dramatique. Les victimes, des victimes à l'école, soit une éducatrice adulte, 5 jeunes de 13 à 17 ans. Il y avait 2 autres victimes qui ont été retrouvées dans une résidence privée. Ce serait la mère et le demi-frère de la suspecte dans cette histoire-là qui semble s'être enlevé la vie. Jesse Van Rootseller, 18 ans. D'ailleurs, suite à des questions des médias, le commissaire a indiqué que c'était à la base un individu de sexe masculin au moment de sa naissance et qu'elle avait amorcé une transition vers le sexe féminin il y a environ 6 ans de ça.
Tu me permets une parenthèse. Vas-y. À partir de ce moment, je veux repasser mon message d'intérêt public qui est en fait une réflexion parce que je vois qu'il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux qui sont partis là-dessus. 2 choses. Premièrement, un peu de respect pour les victimes, ce serait d'abord à elles qu'il faut penser dans ce genre de tragédie-là, au lieu d'essayer de faire avancer un agenda. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve que le timing est parfait, là. Vous aimez pas ça, hein, quand quelqu'un prend des gros raccourcis intellectuels puis des grosses généralités pour faire le procès de la race humaine? Vous aimez pas ça, hein, quand une fille dit que parce qu'il y a un homme qui a tué une femme, on est tous des agresseurs et des meurtriers? Il y a des gens qui étaient fâchés, hein? Il y a même des gens qui sont allés chanter un paquet de bêtises à la dame qui a tenu ce discours-là. Ben soyez conséquents, faites pas pareil avec les trans, OK?
Amen.
C'est juste ça.
Selon le commissaire adjoint de la GRC pour la Colombie-Britannique, Jesse Van Rootseller se serait d'abord attaqué à sa mère et à son demi-frère avant de se diriger vers l'école. À l'école, il y a une des victimes qui a été retrouvée dans un escalier, les autres qui étaient dans la bibliothèque. Pour l'instant, il n'y a rien qui indique que les victimes aient été ciblées. On tente encore de communiquer avec des familles, des victimes, la plupart qui sont nées au début des années 2010. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes les identités au moment où on se parle. Parlons de Bruno Marchand qui, aujourd'hui, se retrouvait devant la Chambre de commerce de Québec pour parler de ses plans en général.
Est-ce que j'ai des bonnes nouvelles? Non. Est-ce que les taxes vont monter? Oui. Est-ce que je vais vous demander plus d'efforts? Oui.
Ce qui a retenu l'attention, c'est qu'il a avisé les gens d'affaires de la capitale qu'il fallait mieux gérer leur eau et leur recyclage, sinon leur taxe municipale sur ces services allait augmenter de manière substantielle l'an prochain. On avait déjà parlé de ce dossier-là en décembre dernier, au moment où la Ville de Québec avait déposé son budget. Puis quand ça a été venu le temps de parler du budget, de tout ce qui était les matières recyclables, les déchets, etc., etc., c'est là-dedans qu'on nous avait informé qu'actuellement, la Ville et les contribuables paient 7,8 millions de dollars pour brûler des cartons envoyés à l'incinérateur par des entreprises qui ne font pas de recyclage. Donc, ce que le maire a mentionné, c'est qu'il devait mettre des mesures en place d'ici 2027. Il voulait leur donner de la prévisibilité parce qu'il pense qu'ils sont en mesure de faire mieux, autant dans la gestion du recyclage que de l'eau.
Là, est-ce qu'on a des objectifs à atteindre? Est-ce qu'on a lancé un ultimatum au commerce? Ah, ben, on a juste mis ça beau, mais qu'il y a une grosse hausse de taxes qui s'en vient anyway.
Tu vois, le détail n'a pas été donné. On est vraiment allé dans la prévisibilité puisque, tu sais, c'était une rencontre avec la Chambre de commerce. Fait que ça a fait partie des sujets qui ont été abordés. De là à savoir si la Ville a un plan, ça serait effectivement le fun de le savoir.
Parce que ça fait une couple de fois que les plans sont déjà arrêtés puis qu'on arrive puis qu'on est devant le fait accompli. Regardez les travaux pour le tramway. Il y a des commerçants qui ont été froissés et avec raison. Qu'on ait une séance d'information après avoir partagé l'information aux médias, puis qu'on est arrivé à la séance d'information, on n'avait pas d'informations supplémentaires à donner, alors qu'il y en avait de l'information supplémentaire.
Sur, entre autres, comment on allait dédommager, qu'est-ce qu'on allait mettre en place pour les aider, puis ça a été fait la semaine d'après.
Mais on avait décidé de ne pas donner cette information-là qu'on avait déjà aux commerçants. Je trouve que ça commence à faire beaucoup d'encours de tout le monde. Puis tantôt, on a échangé là-dessus, puis Véro avait des bons points. Mais je trouve que présentement, on travaille fort à forcer des changements d'habitude.
Oui.
C'est plus facile quand on explique aux gens puis qu'ils ont le goût de le faire. Mais quand on essaye de les pousser à contre-cœur, c'est plus dur.
Non, puis tu sais, il semble y avoir une logique derrière tout ça. Puis pour répondre à la question, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit « Oui, mais on paye quand même pour le recyclage, parce que je vous disais que le recyclage est à coût zéro. »
Je pensais même pas que c'était légal de ne pas faire de recyclage dans les entreprises.
Moi non plus. Moi, je pensais qu'il y avait une obligation.
Je l'ai appris quand on a commencé à travailler dans le building ici, qui n'en fait pas. Je trouvais ça particulier. Surtout qu'on m'avait dit que c'était un building vert. Ben des affaires que je comprends pas, mais je suis ben niaiseux. Faut peut-être m'expliquer avec des dessins. Là.
Le système de collecte sélective est financé par le ministère de l'Environnement. En gros, là, il y avait auparavant un régime de compensation pour les services qui existaient. Ça a été modifié au courant de la dernière année et demie. Mais pour les villes, c'est pas pour rien qu'on incite les gens à mettre le moins d'affaires dans leur vidange, le plus d'affaires dans le sac mauve ou dans le compost, puis le plus d'affaires possible au recyclage. Mm-hmm. Comme municipalité, ça coûte moins cher. Puis au bout du compte, c'est des services que nous autres payons. L'autre question qui lui a été posée, on est en pleine frénésie olympique. Le maire Marchand qui a dit qu'il était ouvert à une candidature pour les Olympiques de Québec, mais c'est pas lui qui allait la pousser. Si la communauté est intéressée pour 2040 ou dans ce secteur-là, ben il allait, on parle de 2042 ou 2046, que lui ne serait pas fermé à ça, qu'il pense que les Jeux du Canada qui vont se tenir ici, c'est une occasion de démontrer le potentiel de Québec, mais qu'il n'a aucune intention de mettre en place des structures, par exemple, de bobsleigh.
Est-ce qu'on a une montagne qui a poussé depuis la dernière fois?
Non, mais toutes les autres fondent.
C'est parce que la dernière fois...
C'était ça l'enjeu.
Et on parle beaucoup des mauvais coups d'André Arthur, mais ça avait été ça, un coup de génie. Lorsqu'André Arthur avait réussi à faire dire aux promoteurs de la candidature olympique de Québec à l'époque que la seule façon d'organiser la seule montagne qui était peut-être en mesure de recevoir les plus grandes descentes olympiques, c'était d'installer les estrades sur le fleuve.
C'était ça, hein?
Pensez-y. Les estrades sur le fleuve. S'il n'y a rien physiologiquement qui a changé dans ce coin-là, est-ce qu'on a un meilleur plan? Parce que si le plan, c'est encore de mettre les estrades dans le fleuve, on va se ramasser dans un reportage à découverte, mais au lieu des ours polaires tout seuls sous des banquises, ça va être des familles de Québécois.
Oups!
On veut pas ça.
C'était pour les Jeux d'hiver de 2002.
Oui, 2002,
ça
exact.
Ça date, là.
Ben oui. J'avais un collant sur ma voiture qui était très laid d'ailleurs.
T'es
sur
sérieux?
Oui, la candidature des Olympiques de 2002, ma vieille Corsica rouge.
Oui, le collant faisait tenir ton char.
Puis le collant était jaune. C'est y a eu une opération collant qui a marché à Radio X, là. C'était pas celle-là. Celle-là n'a pas marché.
Hey, est-ce que vous vous souvenez en 2023 quand Geneviève Guilbeault était ministre des Transports, puis que son équipe et elle jouaient à un jeu pendant l'étude des crédits budgétaires?
Ah oui.
Il donnait des mots,
oui.
Puis il fallait qu'elle les nomme pendant les études de crédit. Mm-hmm. Je pense que son équipe a récidivé avec le nouveau ministre des Transports. Il y a les oppositions qui ont accusé le ministère des Transports de ne pas être suffisamment proactif dans le plan de remplacement des traversiers du côté, entre autres, de Québec, là, parce que le processus d'approvisionnement pour des traversiers dont la fin de vie utile va arriver en 2031 n'a pas débuté encore. En chambre, Jonathan Julien a utilisé l'expression « ici, c'est de l'esbrouffe ».
De l'esbrouffe.
Est-ce que dans ta tête, Jonathan Julien sort ça tout seul ou c'est une liste?
Jonathan Julien n'est pas en mesure d'utiliser ce mot-là si quelqu'un n'y a pas donné.
De l'esbrouffe, c'est un étalage de manière prétentieuse et insolente.
C'est un effet de toge.
Un effet de toge. Ouais, c'est très bien dit.
Je sais quoi que ça veut dire, esbrouffe. J'ai déjà lu des livres quand j'étais petit, là, mais je vois mal comment le placer dans une conversation.
Hein?
C'est ça qui arrive.
J'essaie de rendre les nouvelles un peu funky parce qu'il y a de drôles de choses aujourd'hui. Entre autres, le Parti libéral du Québec qui a fini par envoyer le rapport de l'enquête qu'eux avaient commandé à un ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec, Jacques R. Fournier, en lien avec les fameux textos qui avaient été sortis le 19 novembre dernier par le Journal de Montréal. Les textos dans lesquels on sous-entendait qu'il y avait des brownies, fait que des 100$ qui avaient été passés de part et d'autre pour peut-être acheter des votes. C'est arrivé au lendemain de la suspension de Marois Risky. On était dans le gros crunch de tout ça. Et lui a remis un rapport de 39 pages où dans lequel, en gros, il dit que ben, ça pourrait être un montage parce que j'ai pas eu les sources des textos, j'ai pas eu les confirmations des identités, fait que je suis pas capable de prouver hors de tout doute que ces textos-là sont vrais.
Ça en prenait pas plus pour que Pablo Rodriguez sorte sur ses réseaux sociaux puis fasse « Aha! Family Prix, vous l'avez dit. »
Parce qu'à l'intérieur du même rapport, il dit que Pablo Rodriguez et son entourage n'ont pas participé ou même été informés de ces manœuvres alléguées des brownies avant que le journal les questionne sur le sujet.
« J'avais pas besoin de preuves pour savoir que Pablo a pas de l'air au courant de grand-chose autour de lui. »
Fait que là, ça, c'est le premier rapport de quelques-uns parce qu'il reste encore l'enquête de l'Unité permanente anticorruption, celle du directeur général des élections du Québec, qui font toujours enquête sur la campagne à la direction de Pablo Rodriguez. Il y a Carl Malenfant qui est sorti publiquement aujourd'hui. La semaine prochaine, la commission Galland qui va déposer son rapport sur le fiasco Saclic. Et lui a reçu quelque chose comme 48 préavis de blâme à l'intérieur de ce rapport-là. Fait qu'il a choisi de répondre par une conférence de presse qui a duré entre 60 et 90 minutes.
On a tous déjà eu un boss pas bien ben bon que tout le monde riait de lui et dans sa face et dans son dos, là. Malenfant, ça a l'air d'être ce gars-là à la SAC.
Lui, il a présenté... D'abord, il a répondu aux 48 allégations qui se retrouvent dans le préavis de blâme, là, avec une déclaration sous serment de 112 pages. Mais c'est pas ça qu'il a présenté aujourd'hui. Il a présenté les 8 piliers de vérité pour dire comment il a vécu la construction et le déploiement de sa clique.
On dirait le
la croissance personnelle.
Oui, c'est ça. On dirait une coach de vie qui est pas bien bonne, là, qui part avec ses 8 piliers de la vérité. Là.
Puis qui finit en te faisant te laisser ton chum, ta blonde, ta famille, puis
Genre de livre que Audrey achèterait. Là.
Pardon!
Tu veux pas connaître les 8 piliers de la vérité?
Mais pas du tout.
Juste les 5 langages de l'amour.
Les 8 piliers de l'amour?
Non.
Non? Les 8 piliers de l'oreiller?
Pas toi.
Oh, là, je te reconnais!
Je suis ouverte.
Carl Malenfant, qui est l'ancien vice-président aux technologies de l'information de la Société de l'assurance automobile du Québec, considéré comme étant celui qui était à la tête, justement, de ce projet-là, a dit que sa clique, c'est un fiasco financier qui n'existe pas et a été préfabriqué. C'est intéressant de voir comment on pourra comparer sa présentation d'aujourd'hui à ce qui sera présenté la semaine prochaine par la Commission Galland.
Quand on va reparler à Dominique Gauthier,
oui.
On va lui reparler.
Ben oui.
Assurément.
Assurément. Je veux qu'on lui pose la question. Est-ce que ça a été étudié? La question vient d'un auditeur, puis je veux saluer Jérôme au 418-971-1021. Est-ce que ça a été étudié sérieusement, les possibilités de faire les Jeux olympiques de façon radicalement différente, puis d'utiliser les infrastructures à la grandeur d'un pays?
Comme Milan Cortina.
Oui, un peu, mais vraiment d'envoyer... Tu sais, les gens, par exemple, au Canada, tu pourrais, on a les vieilles infrastructures du côté de Calgary qui pourraient être peut-être utilisées en partie. On pourrait avoir le hockey à Québec, je dis n'importe quoi. On a le centre de glace qui nous permettrait d'avoir les compétitions de patinage de vitesse. Tu sais, on dirait qu'on le considère pas parce que l'Italie, c'est tout petit, puis que le Canada, c'est immense. Mm-hmm. Mais il me semble que ce serait un bon pactole économique de dire le Canada reçoit les Jeux olympiques d'hiver puis que les disciplines sont éparpillées un petit peu partout dans le pays.
Je pense qu'on n'aura pas le choix de le considérer parce qu'actuellement, les pays... En Italie, c'est les Jeux olympiques les moins chers depuis quand même assez longtemps. On parle de 8,4 milliards de dollars. Puis ça, je te dis ça de mémoire. Mais les pays n'ont plus les moyens de supporter le coût des Jeux olympiques. Puis il y a...
On ne pourra pas les faire tout le temps aux Émirats arabes unis. Là,
non. Puis l'autre affaire, c'est que pour les Jeux olympiques d'hiver, ça prend des pays qui sont un petit peu plus nordiques pour être en mesure de recevoir les Jeux. Quoi qu'en début de show, on parlait de l'Ouest qui a reçu de neige, fait qu'on serait bien batté d'avoir des Jeux qui vont dans le coin de Calgary puis de Vancouver.
On est mieux de les faire à New York qu'à Salt Lake City au moment où on se parle.
Mais tu sais, d'éclater ça sur un territoire, je pense que ça va être de plus en plus commun parce que ça va être la seule manière d'être capable de faire survivre des Jeux olympiques.
Ben, tu sais, on commence à l'étendre un petit peu, mais on parle souvent d'une ville, d'une région, d'un pays minuscule comme l'Italie. Mais il me semble que si le Canada pouvait être le premier laboratoire de des disciplines éparpillées, puis c'est pas, ça coûte rien en déplacement parce que t'envoies les athlètes, t'es envoyé pas tous à la même place. C'est sûr que c'est plus difficile pour butiner, là. Mettons que tu es une étoile de la Ligue nationale puis tu voudrais que toutes les belles filles soient à même place au village olympique.
Oui, parce que là, je pense qu'ils n'ont pas accès aux filles en saut acrobatique, mettons.
Mm-hmm, oui, c'est ça qui arrive. Là. Puis moi, ces temps-ci, je me dis, ben là, si les patineuses de vitesse ne sont pas là, je perds mon temps. Là.
Mm.
Ben, c'est un exemple. Là.
Ben
c'est
vrai,
c'est pris dans le beurre.
Oui,
là.
On nous rappelle qu'à Paris...
C'est le fun, mais ils n'attendent pas de s'asseoir et se dézipper à cette heure. Hein.
Denis!
Quoi? C'est vrai, on l'a remarqué.
Les gars font aussi.
Là, ils font tout.
Ouais.
Ouais.
C'est ça ton intérêt, là?
Pas du tout.
Mais c'est pas un. Il était-tu autrichien, le gars en ski qui s'est sacré sur le ventre dans la neige?
Quand je regarde du patinage artistique, c'est la qualité de la performance et les valeurs artistiques de cet écart de jambe. Vise-moi un peu cet écart de jambe, Audrey Pinchot.
Ah, c'est
ça, c'est de l'art. C'est de toute beauté. Moi, j'apprécie la beauté de l'art.
Oui.
Oui.
Oh, oui. Bien, je comprends mieux l'intérêt, là,
ben,
soudain pour les jeux.
Ben, c'est ça.
Oui.
Oui. Véro, on disait?
Je regardais les résultats de Danse sur glace, vu que t'en parlais.
Ben oui, ben, regarde encore ce porté de la fourche, là. Ça, oui. C'est habile, ça, oui. Oui.
Oh,
t'aimes quand ça tourne aussi, hein?
Oui,
les
oui,
costumes
oui.
sont très révoltants.
Oui.
C'est beau.
C'est bien fait, oui. Denis sonne comme un vieux mononcle
oui,
Roger.
Vraiment.
Il n'y avait pas juste des défauts, vos mononcles, là.
Non, mais il sentait drôle, puis il était colon. Il nous reste...
un sur deux, t'es correct.
au moins, je ne pue pas.
Il nous reste un couple en danse sur glace à passer, puis c'est parmi nos meilleurs. Là, c'est Paul Poirier puis Piper Gillis qui vont patiner au courant des prochaines minutes. Actuellement, c'est un couple de l'Italie qui est au numéro 1. Et je termine en vous rappelant le décès de l'acteur James Van Der Beek. Ceux qui ont grandi dans les années 90-2000, c'est Dawson de la série Dawson's Creek. Puis c'est lui qui a joué dans Varsity Blues aussi. Il a joué dans un tas de petites séries et de films, mais vraiment, son rôle le plus connu, ça a été celui-là, alors que la série a débuté en 97 puis a duré pour 6 saisons. Fait qu'on était bien des jeunes universitaires à donc bien triper sur Dawson's Creek. T'sais, il y avait quand même Kelly Holmes qui était là-dedans, Joshua Jackson, Michelle Williams.
C'était-tu le Luke Perry de Dawson's Creek?
Oh oui, absolument.
Ouais.
Absolument.
Le gars qui faisait semblant d'avoir 15 ans, mais qui avait les lignes de front d'un gars de 35.
Il n'y avait pas une si grande différence d'âge, par contre. Puis c'est bizarre parce qu'il y a eu un switch qui s'est fait. Dans les premières saisons de Dawson, on tripait tout sur Dawson.
Uh-huh.
Les dernières saisons, tout le monde tripait sur Joshua Jackson. parce qu'il vieillissait vraiment très, très bien encore. C'est un très, très bel homme. Mais pour revenir à James Vanderbeek, son décès a été annoncé. Il serait décédé aujourd'hui, en fait, à l'âge de 48 ans. Il y a eu un cancer du colon qui a été diagnostiqué en 2023. Il était quand même rendu déjà à un stade 3. Puis en 2024, il en avait fait l'annonce publique. Il avait mené un combat pas mal sur les médias sociaux. Lui qui s'était sorti géographiquement d'Hollywood, s'est installé sur un ranch il y a plusieurs années avec sa femme. Il était rendu avec 6 enfants, tout blond, tout parfait. Donc, c'est quand même triste.
J'ai une question à te poser parce qu'on a à peu près le même âge, Véro. Oui? Puis on a comme entré, je pense que ça commence en quarantaine. Quand on t'annonce des décès de gens qui ont ton âge, ça te rend-tu d'un genou? Moi, c'est rendu que ça me fait de quoi? Ça me fait ça tous les coups. Puis là, tu dis 48.
C'est ton âge.
T'as dit 48 tantôt. J'ai 48 ans. Ouais. Ça vient, ça me...
En fait, ça, c'est de tous les temps.
J'ai jamais eu la chienne de mourir.
Mais
depuis 3-4 ans, j'ai la chienne de mourir.
Ben, c'est parce
que ça arrive à plein de monde.
C'est les âges de mes parents me dérangent beaucoup plus, on dirait. Okay. De tout temps, j'ai toujours trouvé ça triste quand des personnes dans mes âges décédaient. Puis, c'est souvent des cancers, des accidents, etc., etc. Mais on dirait que quand on voit des gens dans les 70 ans que c'est un infarctus ou un cancer qu'on n'avait pas vu venir ou quoi que ce soit, c'est comme si pour moi, je le prenais moins bien que... Je trouve ça plate, tu sais, je l'ai suivi, son combat contre le cancer. Je trouve ça tellement injuste, je peux pas croire qu'en 2026, il y a encore des jeunes en trentaine puis dans quarantaine qui meurent d'un cancer. Là.
Moi, écoute,
ça me sidère.
Moi, à 48, je commence à apprendre à vivre. J'ai pas le temps de mourir. Là.
Et non.
Puis je me dis, à bien des égards, la vie commence à 47, 48, puis il y a du monde qui se rend pas là de un, puis il y en a d'autres qui meurent dans avec des conneries de maladies qu'on n'a pas encore réglées. C'est choquant. Hey, vous cherchez quoi faire cet hiver? On vous invite à vivre une expérience complètement nordique sans quitter le centre-ville. C'est grâce au village nordique du port de Québec. Je vous donne l'adresse sans tarder. C'est village nordique avec un k.portquebec.ca pour avoir l'horaire de toutes les activités. Un site de pêche blanche dans l'univers enchanteur du bassin Louise. Rien à apporter. On a tout ce que ça prend. Les guides aussi. Des igloos pour vous garder à l'abri. Sélection de poutine de chez Mag pour se remplir le bedon. Animation chaque fin de semaine et espace chaleur intérieur avec jeu pour les couples, pour les gens en mode solo, pour toute la famille. Puis en plus, ben, nous autres, on a décidé de jouer la carte romantique. On a un accès double à vous offrir avec une nuitée à l'hôtel 71 d'une valeur de 450 $ simplement en allant inscrire l'activité suivante au blvd.fm, section concours. Partez de mascotte.
Wouh!
Partez de mascotte. Au blvd.fm, section concours, c'est ouvert 7 jours sur 7, le village nordique du port de Québec, pendant le carnaval et pendant la relâche, du vendredi au dimanche, les autres fins de semaine, jusqu'au 8 mars prochain. Bonne chance, vous allez inscrire ça au blvd.fm, section concours. Partez de mascotte.
On se parlait des Olympiques. Quand une nation haute a des compétitions, ils se préparent des années d'avance. Puis on s'en était parlé, entre autres, en hockey féminin. L'Italie avait gagné ses deux premiers matchs. Actuellement, on est en deuxième période, en fin de deuxième période, je crois, entre la Suède et l'Italie. C'est 2-2.
Hein? Pas supposé?
C'est vraiment pas supposé. C'est vraiment, vraiment pas supposé. Ou la Suède avait décidé de pas jouer, ou l'Italie s'était organisée pour que ça aille bien. Ça rend ça effectivement excitant, mais j'ai des questions.
On va parler avec Max Larouche d'ici 18 heures de la journée olympique et de ce qui s'est passé un peu plus tôt aujourd'hui. Juraj Slafkovský qui a propulsé la Slovaquie vers la première victoire du tournoi masculin face à la Finlande, parlant de surprise, une victoire de 4-1. Hey, on va s'arrêter. Il est 16h30. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
L'actualité présentée par le marché tarif.
Juste avant qu'Audrey et sa pureté nous fasse le tour de ce qui se passe dans la circulation, il y a quelques bouchons à signaler qu'on est même capable de voir à partir de nos bureaux sans consulter les cartes. Véro, c'est une certitude médaille pour un couple canadien bien en vue.
Oui, en danse sur glace, parce que cet après-midi, en fait, en soirée du côté de l'Italie, on était rendu au programme en danse libre, alors que le duo formé par Paul Poirier puis Piper Gillis vient tout juste de terminer. Ils ont réussi avec le score total à se classer pour l'instant numéro 1. Il reste uniquement deux couples à passer sur la glace. Il y a les Américains qui sont actuellement en train de faire leur programme, tandis que le couple français formé de la Québécoise Laurence Fournier-Baudry et de Guillaume Cizeron s'élanceront par la suite. Donc, même si ces deux couples-là font plus de points, on est assuré d'au moins une médaille, mais dans la danse libre, c'est 131,56 points qu'on a fait, alors que les plus près, c'est les Italiens qui ont fait 125,30.
Écoute, on verra ce que ça va donner pour les deux couples qui sont perçus comme étant possiblement l'or et l'argent. Mais une chose est sûre, c'est que les Canadiens étaient très, 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 très heureux de leur performance, puis étaient confiants qu'ils allaient très bien se placer. Voyons comment performent les autres.
Mais c'est tellement impressionnant, là. Moi, ça me fait capoter, parce que là, tu es capable d'être synchro, tu tiens sur patin, tu fais toutes sortes de... J'ai de la misère à tenir debout en patin.
Puis quand j'étais plus jeune, tu sais, il y a le patinage artistique où tu vas faire des sauts puis toute l'équipe, puis t'as la danse sur glace, là. C'est aussi tough l'un que l'autre. Garder des équilibres avec quelqu'un sur la tête. Voyons-toi!
C'est la discipline sportive qui, je trouve, ressemble le plus à la lutte professionnelle.
Ah oui, la confiance l'un de l'autre, la chorégraphie.
C'est des gens qui montent une chorégraphie ensemble et qui se font excessivement confiance, parce qu'un mauvais move de un ou de l'autre va amener des blessures. Puis va amener ça casse la magie.
L'autre affaire qui est vraiment, vraiment impressionnante, là, c'est la nage synchronisée.
Ah, tu vois, j'ai moins peur à cause qu'il tombe pas.
Oui, non, mais là, je parle d'impressionnant. Mm-hmm. C'est parce que comment tu es capable d'être aussi fluide et synchronisé dans l'eau? T'as-tu déjà essayé de faire juste un move de danse dans l'eau?
Il n'est pas synchronisé en dehors de l'eau, imagine dans l'eau.
Dans l'eau, à l'envers, je pogne un bouillon puis j'ai mal au nez. Là, imagine faire un move.
Hey, puis c'est quand même rapide, puis son nom, ça me fascine bien. Ces gens-là ont du talent.
Le seul move que je suis capable de faire d'une piscine, c'est le petit canard qui se noie.
Ah, moi, c'est le chien.
Puis je le fais par réflexe, par instinct de survie.
OK, c'est même pas, tu l'as pas appris, celle-là.
Il n'y a aucun talent pour ça, absolument aucun talent. Y avait-tu d'autres choses? T'as-tu fait la circule?
Non, pas du tout.
Non, OK, faut la faire. Oui. Après ça, j'ai des choses à dire.
T'as des choses à dire. T'as-tu une question pour nous, les filles?
Non, pas aujourd'hui.
Non? Ah, c'est tannant, ça. Ouais. Si vous êtes sur la capitale direction Est en ce moment, c'est vraiment lourd entre Henri IV et Laurentienne. D'ailleurs, Laurentienne direction Nord, là, je vous dirais, entre Charest et Jean Talon, excessivement au ralenti, c'est super difficile. Il y a des problèmes aussi sur Robert Bourassa, direction Nord, entre, je vous dirais, Charest et la capitale. Henri IV Nord, entre Wilfrid Amel et la capitale, au ralenti. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Versant Nord jusqu'à l'entrée des ponts, particulièrement difficile. Pareil pour ce qui est de Duplessis Sud. Et pour la Rive-Sud, c'est pas si pire que ça. Ça se passe en chemin des îles et Taniata, mais c'est pas si lourd, contrairement à ce qui se passe ça arrive Nord.
16h43. Hey, les filles, j'ai une question. je voulais juste savoir, ce matin, j'ai été accueilli très favorablement avec ma nouvelle idée marketing pour Boulevard 102.1.
Ouais.
Dans un monde où on se divise de plus en plus, où on semble être lancé dans une course sans fin à trouver les gens les plus tordus dans le bac à fou et faire passer ça pour des gens qui ont des propos équilibrés ou des propos sensés, parce que faut représenter notre bord, notre couleur politique, notre religion, nos valeurs, puis ainsi de suite. Dans un monde où il y a de plus en plus d'extrêmes, je pense avoir compris qu'il faut être extrême quelque chose pour sortir du lot. Et à Boulevard, j'ai proposé aux gens du Pit Stop ce matin qu'on devienne officiellement la station extrême centre.
Comment ça a été reçu, ouais?
Ça a été très bien
par
reçu.
Par tout le monde?
Agréablement surpris de voir que tout le monde embarquait dans ma patente pour devenir des maudits centristes.
Mais je suis tellement d'accord, là.
Tu sais, de tout le temps s'obliger à ramener la conversation vers les gens les plus équilibrés.
Vers la majorité.
Et toujours s'obliger à être conséquent. Si tu penses quelque chose, pense-les pour tout le monde. Sans ça, réfléchis plus. Je prenais un exemple tantôt, parce que c'est parti, là, la chasse aux trans, là, sur les réseaux sociaux, là. Les mêmes personnes qui sont allés traiter de nom une pauvre fille qui a fait une chronique un peu perdue à Montréal sur la radio de Radio-Canada sur le fait que je connais des hommes qui tuent des femmes, donc tous les hommes sont des agresseurs. Ben, c'est fait traiter de nom par un paquet de monde. Ces mêmes personnes-là vont utiliser la tragédie qui se déroule dans quel secteur, Véro?
En Colombie-Britannique.
Ouais. Puis au lieu de parler des victimes, au lieu de parler du carnage, au lieu de parler des guns, là, sont partis. C'était un trans. Il était en processus de changement de sexe. Donc, les trans sont toutes des malades.
On dénonce les généralités faites par d'autres groupes, mais quand ça tombe dans un groupe qu'on a le goût de cibler, on fait des généralités aussi.
Vous aimez pas ça quand les gens font des généralités sur votre dos? De quel droit vous faites la même chose avec des gens différents de vous? À l'extrême-centre, on refuse ça. L'extrême-centre nous oblige à être conséquents. Des deux bords. Embarquez-vous dans ma chaloupe.
C'est de la logique.
Quand on est extrême, on pense tout le temps qu'on a raison. Donc oui, l'extrême-centre, Audrey, c'est la logique. Les autres sont dans le champ. T'as tout compris. Ben, c'est de même ça marche, les extrêmes.
Je m'identifie à l'extrême-centre. Donc...
Radio-Canada a réagi parce que la dame qui a fait la chronique, vous l'avez probablement entendu, ça s'est tellement promené depuis le début de la semaine. On vous l'a fait entendre dans le retour. Les filles ont réagi avec beaucoup d'intelligence, puis c'est sur notre chaîne YouTube pour les gens qui s'intéressent. Ça intéresse du monde, là. C'est, je pense, notre vidéo le plus vue depuis le début de l'année. Je devrais prendre des vacances, mademoiselle. Ça va très bien quand vous prenez le micro. mais c'est une chronique. Elisabeth Lemay, qui est venue faire l'apologie de sa haine pour l'homme. Puis c'est un texte qu'elle lit qui est long, c'est une lecture qui est pénible
avec
et hésitante. Il y a beaucoup de raccourcis intellectuels, beaucoup de généralités. Et étant donné que ça s'est promené, ben la femme s'est faite insulter. En passant, je cautionne zéro ça parce que je suis d'extrême centre et je suis conséquent. Les insultes, j'accepte pas ça pour le maire, pour le chef de l'opposition, j'accepte pas ça pour personne.
Des arguments, c'est une chose, des insultes, c'est une autre affaire.
Sauf si vous croyez pas à la science. Vous autres, vous êtes perdus, il n'y a plus rien à faire avec vous autres. Vous autres, on a encore le droit de vous insulter, c'est les seuls. Dans l'extrême centre, on se garde encore un petit droit, tu sais. Vous avez quelque chose à dire, c'est chemtrail?
Mais moi, je suis au centre du centre de bord.
Vous pensez? Non, non, ici, c'est l'extrême centre. T'embarques ou t'embarques pas?
T'as pas le choix, pas l'extrême du centre.
Non, non, c'est l'extrême centre.
Okay. Moi, je veux des yes girls autour de moi dans l'extrême centre.
Hey, tu viens de me perdre.
Yes! suite au déferlement de haine envers Elisabeth Lemay sur les réseaux sociaux après la diffusion d'un extrait de l'émission De l'huile sur le feu sur les ondes d'ici première, l'animatrice Rebecca Maconnen présente ses excuses à son invité. « Je suis bouleversé devant la déferlante de haine qui s'abat sur Elisabeth Lemay. J'ai tout lu », écrit Rebecca Maconnen sur ses comptes Facebook et Instagram. Maconnen explique qu'un extrait de sa chronique a été publié sur les réseaux sociaux pour, en cite, « croit-elle être retirée ». J'écris « je crois » parce que cette décision a été prise sans moi, sans me consulter ou même m'avertir, sans, donc, on dirait, penser aux répercussions possibles. L'animatrice explique avoir parlé à la direction pour avoir des explications, nommer cette violence, ce climat que nous avons créé pour que quelque chose soit fait pour essayer de stopper le cours des choses, on aurait pu éviter que ça dérape. J'ai réussi à parler à Elisabeth hier, mais le mal, et c'est un immense euphémisme, est fait. Je me sens impuissante, je prends ma part de responsabilité, je m'excuse donc publiquement auprès d'elle. Elisabeth, je suis sincèrement désolée.
J'aimerais bien qu'elle s'excuse de ne pas l'avoir challengée, moi.
Deux choses. Première chose, exactement ça. Si elle a des excuses à fournir, c'est de ne pas avoir challengé et argumenté avec son invité qui débitait des conneries. Ça, c'est la première chose.
Il aurait évité de se planter, peut-être.
La deuxième chose, si le but, c'est de recevoir des opinions extrêmes et après ça, de défendre ces extrémistes-là, qui font des raccourcis intellectuels dangereux et des généralités obscènes.
Assume-toi.
Si c'est ça le but de la game, je m'attends à ce que Rebecca McConnell invite le plus crétin des masculinistes sur sa tribune, puis quand il va se faire crier des noms parce qu'il va dire des maudites conneries, ben je m'attends à ce que Rebecca McConnell fournisse ses excuses aux masculinistes chauvinistes crétin qui va débiter un tissu de conneries et de mensonges sur la radio d'État. Ça, c'est être conséquent. Si on prend toujours le camp de l'invité qu'on est allé piger dans le bac à mêlée, j'imagine qu'on s'excuse des deux bords égales, vu qu'on ouvre la porte à l'extrémisme. Fait que je m'attends à ce que l'émission « De l'huile sur le feu » brûle pas toujours du même bord. Samson fait la même affaire qu'à Radio X, mais de l'autre bord. C'est-tu mieux? Non, c'est un ping-pong pour imbéciles. L'extrême-centre refuse ça.
Il y a une affaire, par exemple, avec laquelle moi je suis mal à l'aise dans les 24 dernières heures. Puis je pense que vous avez compris notre position par rapport à ça. Je pense pas que j'ai besoin de la réexpliquer. Moi, je me sens très inconfortable avec les propos d'Élisabeth Lemay. Il y a une affaire, par exemple, je vais les appeler les crétins. Qui ont commenté...
C'est mes mots, ça.
Oui, mais je vais les emprunter.
OK, c'est vrai.
On est tous dans l'extrême centre.
Oui, c'est vrai. Maintenant que tu es dans l'extrême centre avec moi, tu peux insulter les gens.
Les crétins qui ont pris parole sur les réseaux sociaux en l'insultant, en lui envoyant des menaces
de mort...
En lui
donnant quasiment raison, c'est ça?
Lui donne raison.
Absolument.
Pas quasiment.
Je suis d'accord avec toi.
Les gens qu'elle décrit dans son discours de façon très maladroite et très généraliste, c'est ces gens-là qui lui ont donné raison en répondant, en insultant, en s'insurgeant sur les internets. Puis moi, c'est là où je suis déçu un peu de l'humanité.
Mais j'imagine que ces gens-là vont également insulter et traiter de nom les Maxime Bernier et les autres coucous qui sont partis à la chasse aux trans depuis 12 heures. J'imagine.
Si tu veux être conséquent, mais pour moi, c'est parce que c'est pas une...
J'imagine.
Pour moi, il n'y a pas de raison d'insulter.
Ça serait particulier, Audrey, que les mêmes qui sont partis à chasse aux trans, ce soient les mêmes qui aient été hyper violents et agressifs avec Élisabeth Lemay. Ce serait un grand manque d'intelligence et un grand manque de jugement et un grand manque de conséquences. Vous n'êtes pas les bienvenus dans l'extrême-centre, les Tinamis. Parce que l'extrême-centre nous oblige à réfléchir des deux bords. Je sais que c'est forçant. Ouais, mais moi, je suis droitier. Ouais, moi, je suis gaucher. Ici, on est ambidextre.
Non, mais pour la conséquence, je te suis totalement. Mais j'ai trouvé ça triste. J'ai vraiment trouvé ça triste qu'on s'insurge de ce qu'elle fait, mais qu'on lui donne raison au final par les comportements humains.
Il y en a qui argumentaient bien, mais c'est pas eux autres qu'on retient.
Je vais avoir la prétention de dire qu'ici, on ne lui a pas donné raison. Sur cette tribune, la tribune de Gravel dans le retour, la tribune de Boulevard Centre 2-1, on ne lui a pas donné raison.
Pousse pas trop, là. Mais non, mais t'as raison. Puis j'ai même la prétention de dire qu'il y a probablement des points dans ce qu'elle a amené qui sont pas tout faux. Et là, comprends-moi bien, là, c'est le mix de ce qu'elle a amené qui
est devenu grossier.
Pas. C'est le cause à effet, effectivement, qui est grossier. C'est d'associer des gens seuls, des hommes seuls à des femmes mortes. C'est tout ça qui fait pas de sens.
Ben, je vais prendre un exemple de l'autre bord. Ça va peut-être aider des gens à comprendre, parce que je suis d'accord avec toi, Audrey. Donald Trump n'a pas tout faux. C'est vrai qu'il y a des immigrants illégaux, criminels, qui ont fait des actes criminels, qui ont commis des meurtres, des viols, puis qu'on doit les sortir des États-Unis. C'est pas tout faux. Ce qui rend le discours con...
C'est le mur à mur.
...et stupide, c'est de faire des généralités grossières, c'est de mettre tout le monde dans le même bac. Dans ma tête, Donald Trump égale Élisabeth Lemay. C'est la même chose de l'autre bord. C'est du ping-pong pour imbéciles. C'est Radio X puis Radio-Canada. Je veux pas être là. Je vais être dans le milieu, avec le monde brillant. L'extrême centre. Et nous autres, ça. Maudit centriste. Tout le temps en train de réfléchir.
C'est parce qu'à hurler des insanités...
Je peux pas penser, je suis fâché!
Vous brisez votre cause.
Exactement.
Vous nuisez votre cause. Vous faites que des gens qui pourraient avoir une sensibilité sur certains éléments qui peuvent être d'intérêt puis qui méritent réflexion, on ne veut même plus vous écouter. On va se réfugier au milieu, là, puis on va essayer de survivre ensemble pendant que vous criez par la tête d'un bord puis de l'autre.
Extrême centre, ça veut dire être permanemment assis sur une clôture. À longue, on va finir par avoir mal au foune. Ça fait mal réfléchir.
préfère avoir mal.
Oui, c'est dur réfléchir.
C'est dur réfléchir.
C'est dur réfléchir parce que des fois, tu n'auras pas le choix d'admettre que tu as peut-être tort.
Puis on est...
que tu sais pas tout, que tu n'as pas toutes les informations. Il va falloir que tu travailles plus fort pour aller les chercher parce que c'est pas Facebook qui va t'y donner.
Et c'est un défaut de l'ère dans laquelle on vit de ne pas se donner le temps de réfléchir. On veut une opinion tout de suite. On veut qu'elle sorte fort. On veut qu'elle sorte gros. Et présentement, dans une chasse aux clics qui assure la survie de plusieurs médias, t'es prêt à piger n'importe quel tweet dans le bac à fou puis le faire entendre parce que ça donne des clics. C'est pas pour rien que Radio-Canada a gardé l'intégralité de la chronique.
Mais moi, ça, tu vois, là-dessus, je trouve tellement que Radio-Canada a pas été intelligent. Là.
Tu veux dire?
Bien, t'assumes à 100% ou t'assumes pas, là. Prends une décision qui est tranchée, là, de retirer ça des réseaux sociaux parce que là, ça fait trop jaser négativement. Puis là, mais d'un autre côté, de laisser ça sur ton site web, rendu là, laisse ça sur les réseaux sociaux, le mal est fait, assume ton invité.
C'est comme à ce qu'ils sont, les gauchistes et droitistes, hein? Nous autres, au centre, on est pas mal mieux.
Non, franchement, non. Là, par exemple, c'est ça l'affaire. Là. Faut pas que tu te mettes à caricaturer ce qu'on est dans notre pensée parce que j'ai l'impression qu'on est aussi pire.
J'oserais jamais caricaturer tout ce que j'ai devant moi et que je trouve désolant.
Jamais.
Jamais. Puis en plus, ça mêlerait des gens à qui je veux vraiment parler qui sont pas capables de pogner le deuxième niveau. Je voudrais vraiment pas aller l'audrer. Merci de me rappeler à l'ordre.
Je suis là pour ça.
Merci à Yannick Marceau, qui me donne cette semaine du matériel extraordinaire. Puis là, il était rendu inquiète. Il est même venu me voir après le pit stop me demander « Man, t'es-tu tanné? T'as de l'air tanné? » J'ai dit « Oui, je suis tanné, mais n'arrête jamais. » Oui, je suis tanné, mais n'arrête jamais. Parce que grâce à toi, on part le mouvement d'extrême-centre pour nous obliger à réfléchir. Ça fait mal d'être assis à clôture. Mais ça va nous faire progresser dans la bonne direction, puis on va recommencer à se parler. Puis on va commencer à échanger. Puis on va commencer à être capable d'entendre un point de vue différent, argumenté, puis de réagir autrement qu'avec de la colère puis des insultes. Élisabeth Lemay n'aurait pas dû recevoir une seule insulte. Une seule. Faut réapprendre.
Faut elle, questionner.
Elle aurait dû rester toute seule dans son caca. C'est malheureux ce qui est arrivé, puis je le dénonce. Ça rend pas les propos plus intelligents, puis ça rend pas les propos plus pertinents. Moi, je pensais que les gens qui avaient le temps de réfléchir, c'est un luxe qu'on n'a pas en radio, puis souvent on s'en sert comme une excuse quand on dit des niaiseries. Tu sais, hey, hier j'ai dit ça, c'était sur le fly, j'avais pas pensé à mon affaire. Si j'avais pris deux jours de recul, j'aurais peut-être été plus brillant, puis tout ça, je m'excuse. Puis je me dis, les gens les plus intelligents prennent le temps de réfléchir, puis écrivent un livre. Et à partir du moment où les gens qui ont le temps de réfléchir écrivent des livres où on réfléchit plus non plus, ben c'est là qu'il faut partir l'extrême centre. Puis j'espère que vous allez être nombreux à embarquer dans la brouette. Stéphane Bureau anime une émission qui s'appelle « Une époque formidable » à Télé-Québec. Et Yannick Marceau m'a fait entendre ce matin des extraits de cette émission où on présente un livre et l'autrice de ce livre. Clairement, Audrey n'a pas entendu les extraits de ce livre.
Puis là, je suis curieuse.
Moi,
coup,
oui.
Là?
Toi, t'es entendu, je l'ai vu dans ta face aussi. Vous êtes facile à lire, mademoiselle. C'est après avoir entendu ces extraits-là que je me suis dit « Assez, c'est assez ». Là, on arrête de piger des bocals de fous. On arrête de courir après les clics d'extrémistes. Puis on se place extrêmement dans le milieu. Le plus punk qu'on peut être, c'est vous dire et nous dire et se dire de réfléchir, d'écouter, de dialoguer, d'argumenter, d'échanger, d'écouter, moi le dire encore, d'écouter. Parce que si on s'écoute plus, là, nos intellectuels de demain, là, c'est du monde qui vont écrire des livres de même. Je laisse la parole à Stéphane Bureau, extrait de l'émission « Une époque formidable » sur les ondes de Télé-Québec.
Les hommes, les vrais, aimeraient la viande rouge et saignante. C'est peut-être pour ça que mon invité, ma prochaine invitée, a intitulé son livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ». Suzanne Zakour est antispéciste. Elle est aussi résolument féministe. Je vais la rejoindre à l'instant. C'est un peu du marketing, parce que finalement, Trump est assez accessoire ici.
Oui, donc c'est pas un livre qui parle spécifiquement de Trump, mais de comment notre consommation des animaux et notre exploitation des femmes dans la société sont reliés. Et donc, Trump sert ici de figure un peu de la misogynie. Et pourquoi Trump ne mange pas de tofu? Peut-être parce qu'il est misogyne. Et donc, c'est ce sur quoi porte le livre.
Mais est-ce que tu penses que si on mange de la viande, on est par définition un peu misogyne?
Ce que j'explique dans le livre, c'est que les raisons qui justifient qu'on mange des produits des animaux, les raisons que les gens donnent au fait de manger des produits animaux et les raisons que les gens donnent au fait d'exploiter les femmes ou de commettre des violences conjugales ou sexuelles sont souvent les mêmes. Quand tu dis « j'aime trop ça, je peux pas m'en empêcher, c'est irrépressible, c'est une pulsion de manger de la viande », mais que ça fasse un peu écho à comment est-ce qu'on parle parfois des violences sexuelles dans notre société. Le désir masculin irrépressible, on ne peut pas s'en empêcher, c'est une pulsion, c'est des besoins sexuels.
Je connais beaucoup de femmes qui aiment la viande.
Audrey? Audrey?
C'est particulier, hein? Wow!
Hey, soit qu'on abandonne, soit qu'on fait autre chose. Moi, je veux faire autre chose.
Je veux juste être sûr que j'ai bien compris. Fait que si t'es pas... si tu manges la viande, t'es par le fait même probablement quelqu'un qui ne contrôle pas ses pulsions sexuelles et qui peut faire du mal à une femme.
T'as tout compris. Elle est censée faire la promotion du véganisme, mais en utilisant cet argumentaire-là.
Fait que la meilleure façon que le monde arrête de manger de la viande, c'est de faire passer tous ceux qui mangent de la viande pour des prédateurs sexuels.
Puis là, c'est pas une interprétation que nous on fait. Vous l'avez entendu dire.
C'est la version moderne de « Masturbe-toi pas, Jésus te regarde », tout le temps.
Donc, les véganes sont les meilleurs êtres humains sur Terre.
Ouais.
Parce que ceux qui mangent la viande sont potentiellement dangereux.
Les véganes respectent la femme.
Ouais, c'est ça.
J'aimerais entendre un nutritionniste sur le sujet.
C'est trop centriste, ça.
Okay. C'est pas assez tonton.
C'est pas assez tonton, ni d'un bord, ni de l'autre, tu sais.
J'aime tellement
J'ai d'autres extraits de la même.
Ok.
j'en ai d'autres.
Ok, ben, je suis tout oui.
Merci à Yann Marceau de nous avoir partagé ce petit joyau.
Wow.
Parfois, on va même sexualiser ces animaux pour les montrer de façon sexy, donc...
C'est là que tu dis, on érotise le corps des animaux comme on le fait avec le corps des femmes.
Exactement. Donc, on utilise la logique que si un individu est féminisé, sexy, appétissante, ça la rend consommable ou appropriable. Donc, on voit des publicités où tu as une truie en bas-résille dans une position sexy et qui porte du rouge à lèvres. Et le message implicite, c'est de dire...
Ben, on l'a compris,
c'est comme
en fait.
C'est comme une femme, donc... Bar ouvert.
Oui et non, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir de faire une association, même devant cette image. Le cochon est ainsi grimé, donc c'est bar ouvert avec les femmes.
Bien, si le message ne s'appuyait pas sur comment on conçoit les femmes et l'hypersexualisation des femmes et les violences envers les femmes, ces publicités n'existeraient pas. Les publicités existent parce qu'elles font vendre, parce qu'elles envoient un message qui est compris. On se base sur le fait que les gens comprennent que les femmes peuvent être exploitées. Et donc, si on féminise les animaux, ça les rend plus exploitables. Et à l'inverse, si on animalise les femmes, ça les rend aussi plus exploitables.
Je comprends plus.
C'est ce que je trouve le plus désolant.
Moi, je comprends que Stéphane Bureau est un meilleur animateur que Rebecca McConnell.
Assurément, oui.
Il y a un pince sans rire que je ne lui connaissais pas parce que moi, j'aurais fendu. Là. J'aurais fendu de rire.
Moi, j'adore sa façon de réagir. Pour internet, il garde son sérieux.
Non,
Puis elle comprend pas pantoute qu'il garde son sérieux. On dirait, là, c'est quand même assez... mais je trouve ça triste, tu vois, parce que je ne connais pas la femme qui est invitée. Je trouve ça tellement plate parce que ça a l'air d'une femme qui s'exprime bien. Mm-hmm. Qu'il y a des choses à dire,
ben oui,
mais elle s'est perdue dans le chemin.
Ça sent la chambre d'écho.
De l'information.
Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le chemin. C'est pour ça
parce que moi, je me suis jamais reconnue dans un cartoon sexy ou dans un cochon qui porte du rouge à lèvres. Là,
je les cherche encore, ces publicités de viande qui rendent un animal sexy.
Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui s'égarent à gauche et à droite? On les ramène vers le...
Centre. L'extrême centre.
Le centre. Mm. Faut devenir le phare de la société.
Oui, mais des fois, Denis, je pense que quand la brebis est trop égarée, le chien n'est pas capable d'aller la ramasser.
Comme je te dis, il y a du monde qu'on ne peut plus sauver.
Y a-tu d'autres extraits?
Moi, je veux travailler pour les autres. J'en ai d'autres.
Arrête.
Oui, j'en ai d'autres.
Ça m'excite un peu. J'aimerais.
Je pense que ça t'excite. Non, mais
C'est la viande, hein?
Ben, non,
c'est excitant.
C'est bien. Ça me rend sauvage. On sait comment tu traites les femmes, Audrey Pinchot.
Ben oui, non, mais là, écoute.
T'es violente.
Je comprends d'où vient mon côté animal tout d'un coup. Je saisis vraiment l'art de ses propos.
Ce soir, je partage un steak avec ma blonde et probablement qu'après ça, on va sortir dans la rue comme des vampires affamés.
Je vais devenir un loup-garou.
Pour agresser un passant à deux.
Je sais que l'hyperbole.
Ma blonde m'a agressé cette semaine. Ben oui, c'est vrai, je vous l'ai compté.
Elle avait mangé un steak.
Avait mangé de la viande.
C'est ça, exact.
Ben, tabarnane, ça marche, son affaire.
Hey, coupe ça du frigo, même.
Puis, tu sais, l'hyperbole et l'image pour amener des réflexions, faire passer certains messages, je peux comprendre. Ça existe depuis toujours.
Moi, j'adore
puis, ça. Je pense que c'est important de se questionner, se remettre en question. Je t'ai écœuré des raccourcis dans le bois.
C'est parce que tu peux parler de façon super intelligente de la sexualisation de la femme.
De l'hypersexualisation, de l'utilisation, un tas d'affaires, tout à fait.
Sans parler de cochon avec du rouge à lèvres. Là.
Moi, je trouve qu'on doit commencer à parler de l'hypersexualisation du bacon. Puis je suis content qu'enfin quelqu'un amène le sujet. Veux-tu entendre les autres extraits? Emmenez d'autres, les deux autres.
Il n'y a rien de sexy en plus à du bacon. Là.
Parfois, on va même sexualiser ces animaux pour les montrer de façon sexy. Donc,
les jouets, lui, c'est consommable. Okay, il m'en reste un.
Donc, s'il y avait 20, 30, 40 % de la population qui était végane, ben là, ça commence à influencer l'éducation, les menus, les restaurants, les épiceries. Donc, généralement, la criminalisation ou l'interdiction, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Je pense qu'il va arriver, c'est qu'il y aura plus de production parce que les entreprises qui produisent des produits animaux vont se dire « je vais produire des plantes, je vais faire plus d'argent ».
Merci, Suzanne Zacour. Ça s'appelle « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ».
Ouais, fait que c'est ça qui est ça.
Tu vois, sur le texto, mais c'est bien parce que ça amène des réflexions. Quelqu'un qui dit « maintenant, je comprends mieux l'expression « ma poule ».
Ah! OK.
La fameuse poule sexy.
Ben oui. Mm. Non, ça fait beaucoup...
Ça m'explique pourquoi, quand j'ai regardé le film des Simpsons, j'avais un petit quelque chose à chaque fois qu'il chantait « Spider Pig ».
Ça te travaille en dedans.
Oui, ça vient me chercher. Puis après ça, je peux pas m'arrêter.
Non, on dénonce le film « Sing ».
Ah, mais hey, ça, c'est le pire, là. Ouais. C'est vraiment... Non, mais sérieux. Zootopia, là. Moi, quand tu parles lentement à caisse, là, ouf.
Les paresseux, là. Les frissons dans mon dos.
C'est vraiment le temps qu'on retrouve nos repères, collectivement. Ça inclut les médias aussi. Bordel. Faut être meilleur que ça, là, des deux bords. Puis... Je cherchais le point de bascule. Je pense que tout ça... Qu'est-ce qu'il y a?
J'aimerais qu'on se rappelle qu'on tue les plantes aussi pour les manger. Qui a décidé que la vie d'une plante est moins importante que la vie d'un animal?
Et moins sexy!
Une belle marguerite dans un champ.
Écoute!
Libre comme l'air. Beaucoup moins les fleurs.
Ben oui, voyons!
Est-ce qu'on a pogné notre point de bascule quand Denis Lévesque a commencé à faire des entrevues avec des bizarres à toutes les soirs
mais
à LCN?
Attention, là, c'était des bizarres qui racontaient qu'ils s'étaient fait enlever par des extraterrestres. Ouais. Là, on est totalement ailleurs. On est à une place où une fille essaie de nous dire que les hommes mangent la viande, donc ils traitent des femmes comme de la viande. Puis, tu sais, c'est comme ça se tient pas, là. Ça fonctionne pas. Puis, je comprends que par valeur, il y a des gens qui sont véganes. Ça leur appartient.
Hey,
mais de tenter
ça.
De convaincre du monde de devenir végane en disant « Denis, c'est parce que tu manges de la viande. »
Tu vas être agresseur.
En toi, tu vas violenter des femmes ou tu vas faire des violences sexuelles.
Denis Lévesque invitait l'idiot du village pour rire de lui avec les autres. Là, on invite l'idiot du village, on le fait passer pour un intellectuel de gauche à Radio-Canada ou de droite à Radio X parce que pour moi, c'est la même affaire. Je sais que ça forge du monde quand je dis ça. Mais moi, c'est ma réalisation. Puis c'est pour ça que je suis rendu ailleurs aussi. Parce que quand tu fais partie de la joke puis de ce que tu dénonces, t'es plus à la bonne place.
J'ai l'impression que c'est les changements climatiques, mais des opinions. Tu sais, en parlant au début de show, là, il fait fret à des places où il devrait faire chaud, puis il fait chaud à des places où il devrait faire fret pour se contrebalancer. Mais c'est extrême. C'est carrément ça, des opinions. Les extrémistes de gauche, vous êtes aussi pire que les extrémistes de droite que vous essayez de dénoncer.
Moi, je suis pas revenue de ce qu'on vient d'entendre, là, honnêtement. Là,
t'es encore sur le bacon, hein?
Ça donne faim!
Ma tête est une galaxie éclatée en ce
moment.
Je
peux comprendre.
Je cherche encore les liens directs. Est-ce qu'elle a vraiment dit des produits animaux au lieu de produits animaux? Ça se dit? Oui, ça se dit. Ah ouais, OK. Oh, oui. Il y a des gens qui soulignaient.
Elle avait une bonne conjugaison. Le problème est ailleurs. Elle a meilleur delivery que l'autre.
Ben, elle lisait pas des feuilles.
Qui lisait un texte, là, puis que c'était pas facile.
C'est fascinant, tout ça.
Fait que c'est ce qui...
tellement le goût qu'on retrouve le vivre et laisser vivre en général dans la vie.
À un moment donné, il y a des gens qui étaient convaincus que Maxime Bernier était l'avenir du Canada. Quand je vous dis que, et à gauche et à droite, on est rendu fêlé, solide. Revenons ensemble vers le milieu. Parlons-nous. Écoutons-nous. Et laissons ces gens-là délirer chacun de leur bord.
Bon, là, il y en a qui voient de la sexualité des légumes. Je suis un peu mal à l'aise. Les gros concombres juteux.
Ben là, écoute, c'est... là, j'ai une femme qui... troublant, je suis une femme, je chasse. Lorsque je tire sur l'animal, que je lui dis merci pour donner sa vie et me nourrir, je suis quoi? Un monstre? Ça me fait penser au sophisme. Si une fourchette a des dents et que j'ai des dents, alors je suis une fourchette.
C'est tellement vrai! Mon Dieu, oui!
Mais c'est tout ça qu'ils font. C'est tout ça qu'ils font, Cynthia. T'as tellement raison. Bravo. L'image est très, très bonne. C'est tout ça qu'ils font. Ils font ça avec le trans qui a tué du monde. Si t'es trans, t'es malade dans la tête puis t'es un futur meurtrier.
Qu'est-ce que Trump vient faire là-dedans? Hein?
C'était pour attirer l'attention sur le bouquin.
OK.
Ouais, parce que c'est... Trump représente tout le vice masculin là, incarné. Là.
Ben le sus.
Moi, c'est drôle.
Peut-être la seule affaire logique dans tout ce qui a été planifié.
Parce que moi, je suis un homme, puis je me reconnais vraiment pas dans Donald Trump.
Là, je me questionne beaucoup.
Mais je suis pas encore dessus, moi.
Fut un temps où les extrêmes ont toujours existé à différents degrés, mais il y avait peut-être moins de plateformes pour s'exprimer, se retrouver en groupuscule. Maintenant, il y a les médias sociaux, puis on l'a vu, ça a créé des amalgames absolument extraordinaires. Qu'est-ce qu'on fait avec les extrémistes de part et d'autre?
On les laisse aller.
Est-ce qu'on leur donne des tribunes?
Non.
Pour le dénoncer?
C'est fini. Ils l'ont assez fait, tout le monde.
Parce que, tu sais, là, aujourd'hui, on a parlé... Là...
Une tribune de droite va prendre des tourlous de gauche pour rire d'eux autres, puis une tribune de gauche va prendre des tourlous de droite pour venir... Ça fait 20 ans qu'on fait ça. On peut arrêter?
On fait quoi avec les tourlous?
Ben nous autres, à l'extrême centre, on peut rire des tourlous des deux bords. Parce qu'on n'est pas là. On fait pas partie de la joke.
J'ai l'impression qu'actuellement, on a excité des tourlous de l'autre bord.
Oui, mais ça, je m'en fous comme l'an 40. Parce qu'il y en a qui sont plus proches, puis l'autre gang est à Montréal. Mais si on était à Montréal, on choquerait des tourlous de gauche. Là, on choque des tourlous de droite. Il y a peut-être du monde qui allume aussi, puis c'est tant mieux si c'est le cas.
Bon, on sexualise encore des fruits puis des légumes. On nous envoie des émojis d'aubergines, de pêches, de cerises. Quel genre de personne vous êtes?
Quand on se donne le droit de réfléchir, on se donne le droit de voir les clowns à gauche et à droite, puis de se garder bien stable dans le milieu en se disant « Moi, je participe pas à ça. » Je les regarde jouer au ping-pong, puis une fois de temps en temps, je pige à droite puis je pige à gauche. Je fais entendre ça, on trouve ça drôle. Pas d'insultes, pas de colère, pas de menaces. Non, on trouve ça drôle parce qu'on est bien. On est bien parce qu'on raisonne. On est bien parce qu'on argumente. On est bien parce qu'on explique. On est bien parce qu'on analyse. On est bien parce qu'on se prend pas trop au sérieux. Juste assez des fois. On est bien parce qu'on rit puis on pleure. Pas au nom d'une idéologie vide, comme la gauche puis la droite. Sortez-vous la tête du cul. Sortons-nous la tête du cul. Boulevard 102.1. Je veux pas impliquer tout le monde, mais Gravel dans le retour est maintenant la capitale de l'extrême centre. Nous sommes des maudits centristes et personnellement, je suis fier de l'être.
Je suis encore perturbé.
C'est quoi ta relation avec la vache qui rit?
Ben, c'est fourrant, ça, hein?
Je pense qu'on a quelqu'un sur le texto qui la trouve sexy.
Si tu regardes avec des gros yeux, la vache va rire jaune, là.
Ça part d'elle.
On revient! 17h13 dans le retour.